Parce que par exemple, le mot, il y a un mot qui, dans le texte qui revient très souvent, c'est le cipaye. Et en fait, en français, on a un mot, c'est le cipaye, qui était donc le soldat hindou des armées anglaises aux Indes. C'est vraiment ce mot-là, cipaye. Mais cipaye, au moment dit, a un autre sens aussi. Il désigne en fait les soldats, natifs au service de l'administration coloniale. Et donc là, pour moi, il n'était pas possible de traduire cipaye par cipaye en français. Et là, pour le coup, en fait, cipaye est donc resté en portugais. Et en fait, j'ai fait un glossaire où j'ai mis dans un glossaire. La même chose est arrivée avec le mot portugais cantine, qui a exactement les mêmes sens qu'en français, mais au Mozambique. En fait, ça désigne un petit établissement colonial qui servait à la fois de boutique et de débit de boissons, installé dans la bourse ou dans les faubourgs des villes, tenu par des Portugais ou des Indiens. Donc le mot, ce mot-là était vraiment, parce qu'en fait, comme il y a un livre où il revient, mais vraiment. Dans volume 2, je crois, et j'avais tout le temps cantine, et je me disais, bon, au début, j'avais une idée, bon, épicerie. Voilà. Puis à chaque fois que je tombais sur le mot épicerie, je disais, oh, c'est pas une épicerie. Personne ne va savoir que j'étais. Et bon, après, j'ai essayé boutique, échoppe, enfin, toute une maison de ce mot, et à chaque fois, j'avais. J'ai même essayé de me dire, je me suis même dit que j'allais garder cantine, et que peut-être. Si je mettais une note, justement, quelque sorte, ça pourrait agrandir, entre guillemets, le sens du mot en français. Et finalement, je crois qu'après tout ce chemin, et en discutant justement avec Niakoutou, il m'a dit que c'était pas possible que je traduise par épicerie, par exemple. Et finalement, j'ai décidé, de, pareil, il était en portugais, et dans un glossaire. Voilà, dans un glossaire. Et finalement, j'ai opté aussi pour supprimer, du coup, parce qu'en français, il est commun de marquer les mots en langue étrangère en italique. Mais là, comme c'est vraiment un mot qui revient, je ne sais plus une fois, je n'ai pas compté, mais. Donc là, j'ai aussi également décidé de ne pas mettre l'italique, et en me disant que ce sera un mot qui, le lecteur. Oui, voilà. Et après, il y a quelque chose d'autre, évidemment, enfin, il y a vraiment de choses d'autres, mais il y a quelque chose aussi de très singulier dans cette œuvre, c'est que le personnage principal, si je puis dire, celle de la récitante, en quelque sorte, du récit, elle est traductrice, interprète. Donc ça, il y a des choses assez, assez drôles et assez sauvages sur la traduction, si je puis dire. Et donc, en fait, si vous voulez bien, j'aimerais bien vous faire entendre le début du premier volume, qui est une sorte de. Je dis rien. Tous les matins, sept soleils se levaient sur la plaine Lignaville. En ces temps-là, le firmament était bien plus grand et en lui tenaient tous les astres, les vivants et ceux qui sont morts. Nue comme elle avait dormi, notre mère sortait de la maison avec un tamis à la main. Elle allait choisir le meilleur des soleils. Avec le tamis, elle recueillait les 6 étoiles restantes et les rapportait au village. Elle les enterrait près de la termitière, derrière notre maison. C'était celui-là notre cimetière de créatures célestes. Un jour, en cas de besoin, nous irions là-bas déterrer les étoiles. En raison de ce patrimoine, nous n'étions pas pauvres. Ainsi disait notre mère, Chikazi Makwakwa, ou simplement Mam dans notre langue maternelle. Celui qui nous rendait visite connaissait l'autre raison de cette croyance. C'était dans la termitière qu'on enterrait les placentas des nouveau-nés. Sur le nid de termites avait poussé une meufouleille. À son tronc, nous attachions les tissus blancs. Là, nous parlions avec nos morts. La termitière était néanmoins le contraire d'un cimetière. Gardienne des pluies, en elle habitait notre éternité. Une fois, le matin déjà tamisé, une botte écrasa le soleil. Ce soleil que ma mère avait élu. C'était une botte militaire, identique à celle que les Portugais portaient. Cette fois, pourtant, c'était un soldat Van Bouni qui l'avait au pied. Le soldat fut envoyé par l'empereur Mignon. Les empereurs ont faim de la terre et leurs soldats sont des bouches qui dévorent les nations. Cette botte brisa le soleil en 1000 éclats, et le jour devint sombre. Les autres jours, les 7 soleils mouraient sous le vol des militaires. Notre terre était en train d'être déchiquetée, sans étoiles pour alimenter nos rêves. Nous apprenons à être pauvres, et nous nous égarions de l'éternité, sachant que l'éternité n'est que l'autre nom de la vie. Je m'appelle Imani. Ce nom qu'on m'a donné n'est pas un nom. Dans ma langue maternelle, Imani veut dire qui est-ce. On frappe à une porte, et de l'autre côté, quelqu'un dit Imani. C'est cette question, en effet, qu'on m'a donnée pour identité, comme si j'étais une ombre sans corps, dans l'éternelle attente d'une réponse. Et j'aimerais vous lire aussi un autre passage, cette fois-ci du dernier volume. Où donc, en fait, l'empereur Mongolian est déporté avec ses épouses, dont la reine Dabondi, et un chef rebelle. Il est déporté donc en bateau au Portugal, où il sera emprisonné, puis il sera à nouveau déporté aux Açores, où il mourra. Et donc là, c'est un extrait qui se passe sur un arrêt sur le fleuve. Qui est très différent, vous allez voir, encore de ce que je viens de vous dire, celui du. Enfin, nous débarquons au petit poste militaire de Mangone. L'arrêt sera bref pour embarquer des armes et des blessés. Les prisonniers africains sont conduits dans un coin à l'ombre. Ils reçoivent des biscuits et un verre de vin. Et ils restent là, engourdis de fatigue. Dabondi se détache à nouveau du groupe et vient s'asseoir à mes côtés. Elle a gardé un reste de boisson au fond de son verre. Elle en laisse tomber quelques gouttes sur le sable chaud. Elle apaise la soif des défunts depuis que le monde est né. Tu sais comment j'ai appris à parler avec les fleuves ? C'était à l'adolescence, dit-elle. Cela s'est passé avant que le roi ne me prenne pour épouse. Tous les matins, j'observais une araignée entrer et sortir d'un trou dans la cour de sa maison. Entre ses pattes, l'animal transportait de la rosée au tréfonds de la terre. Elle travaillait comme un mineur à rebours. Elle puisait dans le ciel pour accumuler dans le sous-sol. Cette occupation durait depuis si longtemps qu'au fond de son terrier était né un grand lac souterrain. La reine voulut aider l'animal dans ses excavations humides. Un jour, par une aube sans rosée, elle apporta une coupelle d'eau qu'elle laissa à l'entrée du terrier. Mais l'araignée refusa cette gentillesse, souriant. « Ce que je fais n'est pas un travail, ce n'est qu'une conversation. » Et elle ajouta, « Je vois combien tu souffres. Il faut beaucoup de solitude pour remarquer les créatures aussi petites que moi. » Et en signe de gratitude, l'animal lui a pris la langue de l'eau. « Maintenant, je parle avec les fleuves, petits et grands, » conclut Dabondi. « J'appelle chacun par leur nom, que moi seul connais. » Nous sommes interrompus par Mouzamoussi, la plus âgée des épouses. Sans cérémonie, celle-ci tire Dabondi par les poignets et la traîne auprès des prisonniers. Puis elle crie pour annoncer que Mungunyan requiert ma présence. Je me présente sans tarder. Devant le souverain, je m'agenouille et frappe dans mes mains, comme l'exige la coutume. Le roi prétend savoir quelle conversation j'ai eue avec Dabondi. Je n'ai pas le temps de m'expliquer. Je n'arrive pas à t'entendre, dit le roi. Je hausse la voix. Il secoue la tête. Le problème n'est pas ma voix. Il ne m'entend pas à cause de mes souliers. Tes chaussures, là, parlent trop fort, dit Mungunyan. Dorénavant, tu ne t'approcheras de moi que si tu es pieds nus. Que je me le tienne pour dit. Le sol foulé par l'empereur devient sacré. Mes chaussures offensent cette condition divine. Les reines l'écoutent et s'esclavent. Leurs rires font que mes chaussures cessent d'exister. Les querelles ne naissaient pas seulement entre nous, Africains. Il n'est pas un jour où les chefs militaires portugais n'échangent des accusations. Et tous, Européens et Africains, viennent me trouver pour se plaindre. Je ne sais pas pourquoi ils ont confiance en moi. Plus qu'une traductrice, je suis un pont. Peut-être suis-je l'araignée qui vivait dans la cour de Dabondi. Entre mes pattes, je transporte des mots et avec eux, je tisse une toile qui unit différentes races.